Et de la culture libre.
Donc aujourd'hui, émission avec Hamster qui était venu nous parler il y a un bon moment du Kir existant, d'OpenStreetMap et de l'expérience qu'il avait eue avec tout ça. Et aujourd'hui, Hamster, tu reviens avec un sujet tout à fait différent qui est l'impact environnemental et social de l'informatique. Un sujet sur lequel tu as bossé, tu as fait une petite brochure car en dehors de tes activités dans OpenStreetMap, tu es plutôt écolo.
C'est ça. En fait, à la base, je vis tellement écolo que j'ai longtemps pas eu d'ordinateur, parce que l'ordinateur qui pollue le moins, c'est celui qu'on n'a pas. Et quand il s'est agi d'en avoir un, parce que simplement j'avais des copains qui insistaient pour que j'aie un mail, je me suis dit d'accord, mais alors je vais le faire le moins mal possible. Donc j'ai passé 6 mois à rechercher, me documenter sur les conséquences sur l'environnement de l'informatique. Et j'ai aussi cherché des astuces pour diminuer ces conséquences. Et puis au cours de la recherche, le côté social de tout ça m'est apparu.
Donc tu as fait une restitution en gros de cette expérience, de cette recherche que tu as mis sur ton site. Tu peux donner l'adresse tout de suite.
Alors www.suna.fdn.fr/informatique. Je reprends doucement. www.suna.fdn.fr/informatique.
Voilà, donc tu relates tout ça puisque ton expérience et ta recherche n'est pas perdue, tu la partages.
C'est ça.
Et tu vas nous en parler, partager ça par oral aujourd'hui. Cette démarche, elle est partie du côté écologique. Donc, oui. Quelle était ta recherche? Le premier truc, c'est sur le matériel, c'est ça?
Absolument. Le premier point, ça a été pour moi, quel ordinateur acheter? Le bilan, le constat est très simple. Pour fabriquer un ordinateur, il faut 1,8 tonnes de matériaux, dont 1500 litres d'eau, 22 kg de produits chimiques. Et quand on connaît les produits chimiques, ils sont pas mal polluants. Et 240 kg de combustibles fossiles. Et donc, il y a un impact environnemental majeur à la fabrication de l'ordinateur. Et il faut bien comprendre que ce qui coûte cher environnementalement, c'est les choses qui sont de haute technologie. C'est-à-dire les circuits gravés très fins dans les microprocesseurs, des choses comme ça.
Il faut savoir qu'un microprocesseur, qui est un truc qui doit faire quoi, 2 cm de côté,
oui.
Il y a quelques dizaines de millions de processeurs dedans. Enfin, donc c'est vraiment tout petit.
De transistors dedans.
Transistors.
Et le fait que c'est tout petit, ça fait que techniquement, c'est très dur à faire. Il faut des usines de très haute technologie avec de grandes quantités de sous-traitants, de fournisseurs. Pour arriver à faire ça, ça met en branle toute une industrie et l'impact environnemental de tout ça, il est plus fort que pour faire une coque en plastique. Et donc, l'impact environnemental de l'ordinateur dépend pas tellement de la taille de l'ordinateur. Qu'on ait une tour d'ordinateur de bureau, qu'on ait un ordinateur portable, qu'on ait un smartphone, il y a des différences, mais elles sont pas très grosses en termes d'impact.
Voilà, parce qu'il faut savoir que, quel que soit le matériel, c'est à peu près les mêmes puces dedans.
C'est pas exactement le même, mais c'est tout à fait comparable. Donc là, quand on a fait ce constat, on arrive très vite à la conclusion qu'il faut fabriquer le moins d'ordinateurs possible. Et donc ça veut dire les faire durer le plus longtemps possible. Dans la société où on vit, je retrouve le chiffre. Alors en France, en 2007, il s'est vendu 9,3 millions d'ordinateurs. Donc une dizaine de millions d'ordinateurs par an. Et on sait qu'en moyenne, ils partent à la poubelle environ au bout de 2 ans.
Dans les entreprises, notamment, le matériel informatique s'amortit sur 2 à 3 ans.
C'est ça.
Oui.
Et il est renouvelé, dès qu'il amortit, il est renouvelé. Ça veut dire qu'il part à la poubelle une petite dizaine de millions d'ordinateurs qui marchent encore, chaque année. Pourquoi en prendre un neuf? Acheter d'occasion, c'est encore le meilleur moyen de recycler les déchets des autres. En plus, c'est moins cher.
Et oui.
Ne pas se priver. Donc, après avoir acheté un ordinateur d'occasion, on va aussi chercher à l'utiliser jusqu'au bout. Et pour ça, on peut se demander pourquoi diantre les gens jettent-ils leur ordinateur alors qu'il marche encore? À qui viendrait-il l'idée de jeter un stylo alors qu'il marche encore?
On se pose la question. Et c'est valable aussi pour les téléphones. Hein. On sait que les gens changent de téléphone.
Absolument, sauf que c'est encore beaucoup plus rapide que ça. C'est moins d'un an, je crois, le renouvellement moyen sur les téléphones. Et donc, je vais vous dire, j'ai une carte téléphonique dans la poche. Y a une puce sur la carte téléphonique. Et ça, c'est encore beaucoup plus rapide comme renouvellement. Je vois deux phénomènes qui poussent au renouvellement trop rapide. Il y a évidemment la mode. mode. Et ça, c'est à chacun de savoir y résister. Mais il y a aussi un côté beaucoup plus contraignant qui est le fait que les logiciels qu'on met dans l'ordinateur grossissent. Ils grossissent parce qu'ils font des mises à jour. Windows fait des mises à jour de façon automatique. Quand on utilise Windows, il faut un antivirus qui fait des mises à jour tous les jours. Et on a intérêt à les faire, sinon on attrape des virus.
Ouais. Et puis, ceci dit, voilà, on sait que les antivirus, ça marche pas très bien.
C'est-à-dire que même si on fait une mise à jour d'antivirus, on a quand même des virus.
Il y a une école d'ingénieurs qui avait fait une étude, c'était sorti en 2011 dans la presse, où ils ont fait un benchmark, une étude comparée des principaux antivirus du marché. Conclusion est que les résultats allaient de exécrable à mauvais et qu'en gros aucun antivirus du marché n'est efficace.
Oui, ceci étant dit, si on fait tourner un ordinateur sans antivirus, c'est encore pire. On est bien d'accord. Et Windows, en plus, change de version régulièrement. Et on a connu le passage de Windows XP à Windows Vista, ensuite de Vista à 7. Et si on ne change pas de version, eh bien, on se retrouve avec quelque chose d'obsolète, avec quelque chose qui n'est plus utilisable parce que les logiciels ne fonctionnent plus dessus.
Oui.
Word, Excel, Outlook ont des nouvelles versions aussi. On n'arrive plus à se procurer les anciennes versions, elles ne sont plus maintenues. Et en plus, vu que c'est plus maintenu, les antivirus ne sont plus adaptés et on attrape encore plus de virus sur les versions obsolètes.
Alors sur Windows, il faut dire également que c'est un système d'exploitation qui pourrit avec le temps. C'est-à-dire qu'il est tellement mal conçu que quand on installe, désinstalle des logiciels ou des choses comme ça, ça l'encombre, et des tas de fichiers qui se mettent là, qui font que le système est de plus en plus lent, de plus en plus gourmand, etc.
Et
que parfois, une simple réinstallation à l'état d'origine fait que l'ordinateur se remet à fonctionner normalement.
Oui, mais moi, ce que je vois plus fréquemment chez mes copains, c'est qu'ils commencent à dire « Ah, ça rame, ils rajoutent de la mémoire, et puis après, ça rame encore, alors ils changent l'ordinateur. »
Oui.
Ils en prennent un plus puissant. Comme ça, quand on en prend un plus puissant, ça va plus vite. Donc pour moi, c'est quand même ça le gros moteur qui fait qu'on renouvelle les ordinateurs beaucoup trop souvent. L'astuce que j'ai trouvée pour éviter ça, elle est très simple, c'est de ne pas utiliser Windows. Alors qu'est-ce qu'on peut faire sans Windows? Déjà, acheter un ordinateur sans Windows, c'est à peu près impossible. Si, en cherchant bien, mais il faut s'y connaître. Eh ben non, quand on achète d'occasion, il y a déjà Windows dessus.
Certes, mais il y a de fortes chances que ce soit un Windows pirate, puisque la licence de la plupart des PC est liée, comment dire, à l'utilisateur. Donc il n'a pas le droit de vendre l'ordinateur avec le Windows.
Oui, mais concrètement, quand on achète d'occasion, on a Windows qui est dessus. Mais donc la tentation est grande de l'utiliser, il y est, il marche. Résister à cette tentation et supprimer Windows et mettre autre chose à la place, ou alors laisser le Windows comme il est et mettre quelque chose à côté, en même temps. Alors je pense que de nos jours, surtout sur cette émission-là, il y a des gens qui connaissent Linux et les logiciels libres. L'avantage que j'y ai vu, moi, c'est le côté environnemental qui est que l'ordi... On l'utilise jusqu'au bout. Et quand le Linux qu'on a mis à force de mise à jour devient trop gros, on va trouver une autre version de Linux, on appelle ça une autre distribution, qui est faite pour les anciens ordinateurs, qui consomment très peu de ressources. Et donc on va arriver, si nécessaire, en changeant de version Linux, concrètement j'ai encore jamais eu besoin de le faire, on va largement arriver à utiliser l'ordinateur jusqu'au bout.
Alors du côté du noyau Linux, proprement dit, hein, la distribution c'est un ensemble de logiciels, Linux est le noyau. On sait qu'en 2011 notamment, 2010-2011, le noyau avait tendance à enfler et à devenir de plus en plus lourd. Il y a eu pas mal de réactions de ce côté-là, notamment à la suite d'un coup de gueule de Linus Torvalds qui était... papa du truc. Le noyau a de nouveau progressé en vitesse et donc cette tendance à l'empattement n'est même pas une
obligation. Oui, non, mais ça c'est que le noyau. Si on n'a qu'un noyau, on ne fait pas grand-chose avec l'ordinateur. Voilà, aussi tous les logiciels qui sont autour et eux, ils continuent à grossir. Notamment ce qu'on appelle le bureau.
Voilà,
c'est surtout ça qu'ils consomment.
Un des avantages des distributions GNU Linux, c'est qu'on a une foule de distributions pour des tonnes d'usages et notamment certaines qui sont taillées pour des ordinateurs peu puissants. Donc on arrive à faire fonctionner des machines assez anciennes.
Alors après, quand on achète l'ordinateur, il y a une autre question qu'on peut se poser, qui est d'occasion, d'accord, mais la panoplie est large. On va prendre quoi? Donc là, on va regarder les performances, et on va trouver toutes sortes de performances à toutes sortes de prix. Et en tant qu'écolo, moi, la performance qui m'a intéressé le plus, c'est la consommation électrique. Et donc là, clairement, un ordinateur fixe, une tour qu'on met sur le bureau, ça consomme combien? 100 watts quand c'est au repos, quand on n'y touche pas et qu'on le laisse tourner allumé.
Alors les alimentations, ça dépend des machines. Sur une vieille machine, elle est de l'ordre de 250 watts, mais c'est quand même bien rare qu'elle tourne à fond.
Voilà.
En général, on est quand même aux alentours de 50-60 watts.
Sans y toucher. Et dès qu'on le fait travailler, ça augmente 100 watts, 150 watts, 150 watts. Alors qu'inversement, un ordinateur portable, c'est un ordinateur qui est fait pour tourner sur batterie, avec de l'autonomie, et donc des efforts pour économiser le courant qui est dans la batterie, et donc une faible consommation. On trouve aujourd'hui sur le marché de l'occasion des ordinateurs qui consomment 20 watts, 30 watts. Alors qu'on est en train de travailler dessus, quand ils sont au repos, quand ils sont juste allumés, on n'y touche pas, c'est plutôt 10-15 watts. Et donc, clairement, il y a un facteur 10 quoi, sur ce point-là. Par contre, l'ordinateur portable, il a un défaut, c'est qu'il a une batterie. Et la batterie, c'est polluant. De nos jours, c'est tout au lithium. Le lithium, demandez à un chimiste, il vous en parlera. On est d'accord. Hein. On n'a pas encore trop de problèmes au niveau de l'exploitation de la ressource, parce que c'est récent. Et donc, les endroits où on trouve le lithium et où on l'exploite, on est encore loin de les avoir épuisés. Mais si les batteries au lithium continuent à se démocratiser comme elles le font, et notamment si on essaye de faire des voitures électriques, ça va vite manquer. Si ça se met à manquer, ça veut dire qu'il y aura des gens qui vont essayer de tirer les prix vers le bas et qu'on va avoir de l'exploitation des travailleurs dans les mines de lithium et des choses comme ça. Ça, on voit venir le coup très vite. En en parlant à des copains, je me suis aperçu d'un détail qui est bête et auquel on ne pense pas, c'est que certains ordinateurs portables ne fonctionnent pas quand ils sont branchés sur leur alimentation quand la batterie est morte ou quand il n'y a pas de batterie. Donc pour moi, clairement, j'achète des ordinateurs portables d'occasion, et quand la batterie est foutue, je ne la change pas. C'est pas tous les ordinateurs qui permettent de faire ça. Je change pas la batterie, ça veut dire que j'utilise l'ordinateur en permanence branché sur son alimentation. Ça devient un ordinateur de bureau à faible consommation.
Transportable, mais il faut une prise.
Voilà, du transportable, il faut une prise. Donc ensuite, on avait commencé à aborder le côté logiciel. J'ai parlé de Linux. Il y a des gens qui savent pas trop bien installer Linux. Donc là, je vous invite à vous rapprocher du club de Linuxiens pas trop loin de chez vous. On appelle ça le groupe d'utilisateurs de Linux. Il y en a une centaine en France.
Ouais, groupe d'utilisateurs de logiciels libres avec deux L. C'est ce qui est utilisé en général.
On peut le dire comme ça, voilà. Aussi.
C'est plus large.
Et donc, il y a des sites web qui font des listes. Alors, j'en avais trouvé deux. Il y a www.trouvetongul.info, donc TRUVETONGU2L. info et aful.org/gul/list, donc aful.org/gul.
Je crois que c'est un peu bougé là-dessus.
/liste.
Voilà. Mais bon, ou par un moteur de recherche, on trouve ça aussi, oui. Assez facilement. Effectivement, c'est quelque chose de. C'est un boulot de terrain qui est fait par ces associations locales qui est vachement bien. Donc ils font en général des permanences et on peut aller pour se faire. Donner un coup de main, former, ou ce genre de choses.
Des permanences ou des réunions régulières. Et puis on peut signaler aussi, pour tout ce qui est logiciel libre, le site Framasoft qui fait une liste de logiciels libres sélectionnés et qui est assez bien faite. On trouve beaucoup de choses et quand on trouve quelque chose, c'est quelque chose qui marche, qui est pratique. Il y a des fiches qui décrivent chaque logiciel et donc si c'est un logiciel un peu d'utilisation un peu compliqué, on va le voir sur la fiche et on va même pas l'essayer.
Ok, on va faire une petite pause. Là, tu nous as parlé de comment on choisit son ordinateur, comment on l'alimente en logiciel libre, etc. Après, on va voir qu'est-ce que tu as trouvé comme solution par rapport à l'usage, que il ne s'agit pas juste de s'équiper. Après, dans l'usage, il y a des trucs à faire.
Blade for you.
Donc de retour avec Hamster sur le sujet impact environnemental et social de l'informatique, où tu nous racontais comment tu t'es mis à l'informatique, comment tu as acheté un ordinateur d'occasion, toutes les recherches que tu as faites pour ça. Tu as fait donc le choix du logiciel libre, d'une distribution GNU Linux, et le choix du logiciel libre. Alors effectivement, ça permet de faire tourner un plus vieil ordinateur, de ne pas avoir besoin de le renouveler, donc il y a ce côté environnemental. Après, il y a quand même une question d'usage. On sait que moi, j'ai été sous Windows à une époque. Ce que j'en avais tiré comme impression, en tout cas ce que j'avais apprécié en arrivant dans le monde du logiciel libre, c'est que dans Windows, j'étais dans une sorte d'environnement hostile. C'est-à-dire que bah, y a des logiciels gratuits, mais pas libres, qui vont installer des trucs de pub. Il y a les virus dont tu as parlé, les risques des mises à jour qui vont changer les fonctionnalités de Windows parce qu'on veut m'enfermer dans tel ou tel truc, etc. Et donc toute une série de trucs d'embuscades, cette sorte d'écosystème hostile où on peut apprendre à s'en sortir et à pas se faire avoir. Mais au final, même si on ne sait pas avoir, on a toujours des trucs en embuscade, et ça, c'est le truc qu'on n'a pas dans le logiciel libre. Toi, tu avais quand même une expérience dans l'informatique avant d'avoir un ordinateur, non ? Tu n'avais jamais utilisé un ordinateur avant.
Et donc, quand j'ai acheté mon premier ordinateur, ah oui, j'avais une expérience de l'informatique. C'est-à-dire que je savais utiliser Word ou Excel sur l'ordi de mon boulot. Bon, ça reste limité quand même. Hein. Ça, c'est une machine à écrire numérique, on va dire. Et donc, le premier ordinateur que j'ai acheté, il y avait Windows dessus, parce que quand je l'ai acheté d'occasion, il y avait Windows. J'ai gardé Windows juste assez longtemps pour télécharger Linux, et j'ai démarré tout de suite sur Linux. Et donc, ce que j'ai trouvé, moi, c'est un écosystème fourmillant, avec toute la complexité, j'ai envie de dire tout le bordel, d'un truc fourmillant. Mais par contre, pas hostile, ça c'est vrai. Le problème que quand on a Word qui fait sa mise à jour, après, les fichiers qu'on enregistre, on peut pas les relire avec la version de Word précédente sur un autre ordinateur. Le fait que il n'y a pas à tout le temps se faire attention au fait qu'il y a des clés pour arriver à activer les choses, que voilà, à chaque fois que j'ai un copain qui est sous Windows et qui me demande de le dépanner, je trouve ça horriblement compliqué. Dans le monde du logiciel libre, j'ai trouvé compliqué d'avoir à s'y retrouver dans le bordel, dans le joyeux bordel que c'est. Quand on recherche un logiciel qui fait quelque chose, on n'en trouve pas, on en trouve 10, alors après, lequel on prend, on en essaye un, il ne nous plaît pas, on en essaye un autre, il est différent, mais il nous pas non plus. Puis on, l'air de rien, on passe du temps à tous les installer, les essayer. Mais quelque part, on passe du temps à les essayer parce que l'installer, ça, c'est trois clics et puis c'est réglé. Je ne me suis pas heurté à des problèmes de fonctionnalités cachées, à des choses que si on fait ça, alors ça va faire savoir telle autre conséquence, etc. Ça, c'est vrai que ça s'apprécie.
Et donc, tu as déroulé ta logique écolo sur l'usage de ton informatique, sur le choix de ton matériel, mais également sur l'usage que tu as fait de ton ordinateur, c'est ça ?
Ben, ça, c'est sûr que après, quand on utilise l'ordinateur, il y a d'autres questions qui viennent, qui sont avec quel courant je l'alimente. Il y a une tentation qui vient assez vite de se dire oui, mais l'ordinateur que j'ai là, il consomme 40 watts. Et puis, dans le magasin, j'en vois des neufs qui consomment 10 watts. Alors, quelque part, si j'en achète un neuf, je vais consommer moins de courant. Et donc là, on a un petit calcul, on a vite vu que je reprends les chiffres. Est-ce que c'est la peine ?
Oui,
je
tu
recite
peux les redonner, oui.
La quantité de matières premières et de combustibles fossiles qu'il faut pour faire un ordinateur, on voit très vite qu'il vaut mieux continuer avec le vieux ordinateur jusqu'au bout. L'impact environnemental de la fabrication de l'ordinateur neuf est bien plus gros que ce qu'on aura économisé en consommant moins.
J'avais vu des chiffres qui étaient pour un ordinateur portable, il faudrait le faire tourner 6 ans 24 heures sur 24 pour égaler la quantité d'énergie nécessaire à sa construction.
Et au bout, concrètement, 6 ans, c'est plutôt l'ordre de grandeur de sa durée de vie.
Voilà, et on parle bien de tourner 24 heures sur 24, ce qui n'est pas le cas de notre ordinateur portable. Et je ne sais pas si les chiffres prennent en compte les matières premières que tu citais, les produits chimiques et tous ces trucs-là.
Sans compter le fait que l'ordinateur, quand il est mort, c'est un déchet. C'est un déchet qui est polluant. Et donc, moins on en fait des déchets polluants, mieux on se porte. Donc au niveau du courant, si on est écolo, on va se dire qu'avec du courant renouvelable, c'est mieux. Et donc quand on cherche fournisseur de courant renouvelable, des choses comme ça, on arrive assez rapidement sur Enercoop, qui est plus que du courant 100% renouvelable. C'est un fonctionnement en coopérative qui implique le consommateur. J'ai pas dit les clients. Et en plus de ça, c'est un modèle économique différent. C'est-à-dire que les sociétaires de la coopérative, en étant sociétaires, ils participent à l'investissement qui sert à construire les moyens de production production d'électricité renouvelable. Et ensuite, le courant qui sort de ces moyens de production est acheté par les consommateurs qui sont en très grande majorité les sociétaires de la coopérative. Et donc, il y a un circuit économique qui est bouclé. C'est-à-dire qu'en un mot beaucoup plus simple, je vais à l'Assemblée Générale voter le prix du courant que j'achète. Et ça, c'est radicalement pas le... C'est très différent, c'est totalement différent du système de marché. Avec, c'est pas du tout une relation client-fournisseur.
Mmh, parce qu'on sait qu'il y a plein d'offres plus ou moins vertes vendues par des fournisseurs classiques. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière.
Il y a même des offres totalement vertes, mais on reste dans une relation commerciale de client-fournisseur. Et ensuite, totalement verte, c'est-à-dire 100% du courant renouvelable. Si on va voir, si on creuse un peu plus, on va voir que c'est en fait du courant qui est vendu avec des certificats verts. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des pays comme la Belgique où le certificat vert est une très bonne chose. Mais par contre, en France, ce que le gouvernement a choisi, c'est la garantie d'origine. Et le certificat vert vient en doublon en plus. C'est-à-dire qu'une offre sur certificat vert, c'est une offre où la valeur verte du courant est vendue deux fois. Ça s'appelle une arnaque. C'est une arnaque légale, mais c'est une arnaque. Et donc Enercoop est le seul qui n'utilise pas du tout de certificat vert.
Tu as donc...
moi je suis clairement chez Enercoop, oui.
Je suppose que tu consommes l'électricité avant d'avoir un ordinateur. Tu étais déjà chez Enercoop.
J'étais déjà... non, parce qu'à l'époque, les particuliers n'étaient pas encore autorisés à être chez Enercoop. C'était 1er juillet 2007 que le monopole d'État a été arrêté, mais j'avais un ordinateur avant.
Ok, et donc il y a la question... dans l'usage, il y a la question d'Internet.
Oui, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus la mode du cloud computing, vive les mots anglais, c'est-à-dire la mode de ne plus avoir ses logiciels sur son ordinateur, ni même ses fichiers tant qu'on y est, et de tout faire par connexion Internet interposée, ça a un côté très pratique, parce qu'on retrouve ses affaires, quel que soit l'ordinateur, que ce soit à la maison, que ce soit au boulot, que ce soit en vacances, que ce soit chez des copains, on se connecte et on retrouve comme si on était chez soi, tous les logiciels qu'on a l'habitude d'utiliser, tous ces fichiers, etc. Moi, je suis assez dubitatif par rapport à ça, parce que, d'une part, parce que le jour où la connexion Internet est en panne, eh bien, on n'a plus rien.
Bon, le jour où le fournisseur coupe tout aussi.
Le jour où le fournisseur décide de censurer nos données, eh bien, on les a plus. Et puis, quand on se documente là aussi, quand on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière la vitrine, derrière la façade, eh bien, il y a quand même le fait que les données, elles sont forcément sur un ordinateur. Si ce n'est pas le nôtre, ben, c'est celle du fournisseur qui fait le service de cloud computing. Et on voit qu'il y a un côté data centers, climatisé, etc.
Qu'on ne peut pas se dire que comme c'est mutualisé, la consommation par unité, en quelque sorte, puisqu'on a plein de gens qui vont mettre leurs données au même endroit, qu'on aurait un meilleur rendement.
Moi, ce que je vois, c'est que si on a ces données chez soi sur son ordinateur, ça fait un ordinateur qui tourne. Si on a du cloud computing avec les données dans un data center, notre ordinateur, il tourne quand même pour arriver à se connecter. Donc, c'est notre ordinateur qui tourne, autant qu'avant, plus la consommation du cloud computing dans le data center.
Et le fait de devoir climatiser le data center, effectivement.
Alors, donc,
il y a eu des chiffres un peu fantaisistes qui ont circulé, où on disait qu'une recherche sur Google revenait à faire bouillir une tasse de thé ou un truc comme ça. Est-ce que c'est des trucs que tu as pu voir?
Le chiffre que j'ai eu, moi, c'est une recherche sur Google, c'est l'équivalent d'une lampe pendant 10 minutes. Je ne suis pas allé le vérifier. Il y a un autre chiffre que j'ai, celui-là, je l'ai vérifié. 13,5% de la consommation électrique française part dans l'informatique.
Donc ça commence à faire un sacré...
Ça commence à faire.
Voilà.
Alors quand je dis informatique, c'est tout compris. C'est-à-dire le data center, plus l'ordinateur qu'on a chez soi, plus les ordinateurs de bureau dans les entreprises, tout ce qui est informatique, plus le smartphone quand on le recharge. Voilà. Combien? 58 réacteurs nucléaires. Donc 13% de 58, on est à 6 réacteurs nucléaires qui travaillent rien que pour l'informatique.
On n'a pas que du nucléaire en France quand même, même si on en a beaucoup.
Oui, bon, allez, je fais des chiffres à la louche. Et donc, autre point de l'usage, évidemment, il y a personnellement, il y a un sujet que j'ai envie d'aborder, c'est le sujet des fils. Comment on branche l'ordinateur, comment on ne le branche pas. Il y a une mode, et puis c'est pas qu'une mode, parce qu'il faut avouer que quand il n'y a plus tous ces fatras de fils qui traînent dans tous les sens, c'est pratique. Et puis c'est quand même aussi une mode. Et bien, en termes d'impact environnemental, moi je vois ça comme une pollution électromagnétique. Il y a de la controverse sur ce sujet-là en ce moment. Personnellement, j'ai un avis très tranché. Un avis tellement tranché, c'est l'avis de quelqu'un qui le vit au jour le jour. La Wi-Fi des voisins m'empêche de dormir. Si je ne m'en protège pas, je ne dors plus. Donc, allez me dire que c'est psychosomatique, allez me dire que ceci, cela, tout ce que vous voulez, je le vis, moi. Il y a déjà un jour quelqu'un qui m'a demandé comment tu sais que c'est nocif. Je lui ai répondu comme je sais qu'une aiguille ça pique, comme je sais que l'eau ça mouille. Je n'ai pas développé un sixième sens qui me permet de détecter la pollution électromagnétique, mais ça me rend malade. Et ce que je ressens, moi, c'est les symptômes de la maladie. Comme un allergique, hein. Quelqu'un qui est allergique au pollen, il ne sent pas l'odeur du pollen. Par contre, ce qu'il sent, c'est que ça lui irrite le nez. Et il ne le sent pas sur le moment, il le sent après. Voilà.
Voilà, puis on a également bah, tout ce qui est téléphone portable avec les gens qui ont le bonheur d'avoir une antenne relais sur leur toit ou des choses comme ça.
En face de chez eux, ouais. Et qui donc ne peuvent pas, que quand ils raccrochent le téléphone, il y a toujours l'antenne qui fonctionne en face de chez eux. Puis il y a le bonheur de prendre le train ou le métro et puis avoir tout le temps des gens qui téléphonent autour de soi ou qui chattent en 3G ou qui des choses comme ça. Et puis qu'on se retrouve avec mal à la tête au bout du trajet, des choses comme ça.
Donc voilà. Et côté environnement, et là pour le côté pollution, bah une fois que le PC ou le smartphone est mort, il faut le jeter et le recycler.
Alors, le recycler, c'est le mieux, mais comment on fait pour le recycler? Si on se documente sur les filières de recyclage, on trouve des ordinateurs qui arrivent dans les pays du tiers-monde où il y a des gens qui les dépiotent à la main. Pas du tout reluisant, tout ça.
Je crois même que pour récupérer l'or qu'il y a dans les circuits et dans les pièces, puisqu'on utilise de l'or, et ils font tremper les trucs dans des bains de...
Il y a besoin.
De mercure, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin,
je ne serais pas étonné qu'il y ait du mercure. Je ne suis pas allé voir dans le détail, mais c'est connu. Hein, pour dissoudre l'or, on utilise le mercure. Ça, c'est clair. Mais avant le mercure, parce que s'il y a de l'or qui est enfermé dans une puce, quand on voit la puce, on voit un boîtier en plastique. Et le mercure, il ne traverse pas le plastique. Et donc, avant le mercure, il y a du broyage et il y a de la dissolution par bain chimique. Donc, attaque à l'acide, des choses comme ça. Et puis, voilà. Donc, c'est tout à fait critiquable. Ceci étant dit, on peut le voir aussi dans l'autre sens. La pire chose qu'on puisse faire pour se débarrasser d'un ordinateur, c'est de la mettre sur le trottoir sur le jour des encombrants.
Il faut savoir que tout ce qu'on met aux encombrants sur le trottoir, c'est broyé, mis dans un grand trou, et on met une couche de terre par-dessus.
Voilà. Et donc ça, c'est, moi j'appelle ça une bombe à retardement, c'est-à-dire que les polluants qui sont dans l'ordinateur, ils ressortiront un jour.
Une fois qu'on a rempli le gros trou de la décharge, en général on fait un parc dessus, parce que c'est pas assez stable pour construire des maisons, donc pensez-y quand vous irez faire vos pique-niques à la belle saison.
C'est pas le pique-nique qui m'inquiète, c'est tout ce qui se sera infiltré dans la nappe phréatique et que les gens de la ville d'en dessous retrouveront dans leur robinet.
On a le cas des batteries aussi. Batteries, c'est des métaux lourds.
Je les traite comme l'ordinateur. Quand elles sont mortes, je ne les change pas pour en utiliser le moins possible. Si je trouvais d'occasion des ordinateurs sans portables, donc faible consommation, sans batterie, je serais preneur. Concrètement, ça n'existe pas. Bon, le jour où il y aura des ordinateurs de bureau qui consommeront aussi peu que les ordinateurs portables, évidemment, je prendrai ça. D'occasion. Donc j'attendrai quelques années pour que ça arrive sur le marché de l'occasion.
Ok. Bah, on va se refaire une petite pause et puis on réattaquera tout à l'heure un peu plus dans le détail sur notamment Internet et ce genre de choses.
Thank you. it's every one of us. Comforting rewind. Moving on to somewhere. Somewhere you must know. Leave our stuff behind.
De retour avec Hamster sur impact environnemental et social de l'informatique. Donc tu nous as raconté comment tu es venu à l'informatique, etc. Tu parlais de cloud computing au niveau de l'usage de l'informatique, tous ces services hébergés qui peuvent consommer pas mal de trucs, outre le fait qu'on n'est pas vraiment maître de ces données. Il y a un autre truc important quand on navigue sur Internet, c'est la pub.
Oui, pourquoi la pub ? Quelqu'un, ma grand-mère, a un ordinateur, alors Atari, il y a des gens à qui ça parle, hein ? Dans ce temps-là, il construisait solide, hein, parce qu'il a facilement 25 ans, mais il tourne toujours l'ordinateur. Et avec, elle fait ses comptes depuis 25 ans. Et elle ne fait que ses comptes.
Mais elle ne va pas sur Internet.
Et il n'est jamais branché Internet, évidemment, il n'a pas de carte réseau. Oui. Bon, c'est assez limité quand même, hein, comme usage d'un ordinateur, quand on ne peut pas le connecter avec d'autres ordinateurs. C'est une très bonne machine à écrire, mais ça ne suffit pas à grand monde. Il y a ma grand-mère, oui, bon... Et donc, clairement, après avoir cherché quel fournisseur de courant, j'ai cherché quel fournisseur pour avoir une connexion Internet, et puis je me suis posé la question toutes les conséquences de mon usage d'Internet, en plus de mon usage de l'ordinateur. Donc, il y a un truc qui se voit gros comme le nez au milieu de la figure sur Internet, c'est la pub. Ouvrez n'importe quel site web un peu commercial, un peu grand public, ça clignote de partout. Donc là, j'ai trouvé une parade très rapide qui s'appelle Adblock.
Adblock, ouais, le fabuleux plugin, comme on appelle Greffon, sur Firefox.
C'est une option.
Une option.
C'est une extension.
Une extension.
Ça n'existe pas que sur Firefox. Hein.
Oui, on le trouve en tout cas pas sur Internet Explorer.
Non.
Il ne faut pas déconner non plus.
Quand même. Mais par contre, sur Conqueror, par exemple, ça y est aussi.
Conqueror, tu peux nous rappeler ce que c'est ?
C'est un navigateur, c'est pour aller consulter des sites web, comme Firefox.
Voilà, libre également.
C'est le problème dont j'ai parlé du logiciel libre tout à l'heure. Quand on cherche un logiciel pour faire un truc, on n'en trouve pas, on en trouve 10. Et donc, c'est une option qui se rajoute assez facilement et qui met des rectangles blancs à la place de toute cette saleté de pub qui clignote dans tous les
sens.
Voilà,
le truc qui en fait référence tous les fournisseurs de publicité. Et dès que ça arrive, dès qu'il en voit un, il le bloque et il ne charge pas la pub correspondante.
C'est un point très important qu'il ne charge pas la pub. C'est-à-dire que le cash qui tombe, le reversement publicitaire, il est au nombre de téléchargements. Et donc si on ne charge pas la pub chez le fournisseur de pub, ça veut dire que le fournisseur de pub n'est pas payé. Et donc c'est non seulement qu'on ne voit pas la pub, mais en plus qu'on ne la fait pas vivre. Ou qu'on la fait moins vivre. Parce qu'il y a d'autres choses qu'on voit, mais alors ça, c'est plus caché, j'ai envie de dire. Moi, je l'ai découvert avec WizGo. WizGo, c'est un machin qui n'existe plus parce qu'ils ont eu un procès qu'ils ont perdu et ça leur a interdit de continuer à fonctionner. Mais j'ai eu un copain écolo, surtout un écolo, quoi, ça fait encore plus bizarre, qui m'a envoyé un mail en disant « voilà, regarde ce truc-là, ça a l'air bien, c'est un magnétoscope en ligne, c'est vachement pratique, quand il y a une émission intéressante à la télé, on peut comme ça l'enregistrer. » Alors, magnétophone en ligne, pourquoi il y a des magnétophones en carré? moi, je suis allé voir ce que ça veut dire, magnétophone en ligne. En fait, c'est un site web sur lequel on peut programmer, commander l'émission qu'on veut enregistrer à l'avance. Et quand l'émission passe, le site web l'enregistre. Et ensuite, on peut aller télécharger le fichier vidéo, donc sur le même site web. Donc, en effet, c'est pratique. Je ne suis pas persuadé de l'avantage de passer par là plutôt que d'aller après l'émission sur le site web de la chaîne de télé et la télécharger directement là-bas. Mais par contre, quand j'ai un peu cherché à comprendre qu'est-ce que c'est que ce truc WizGo, alors là, je suis allé voir sur les conditions d'utilisation et puis j'ai lu les petites lignes. Et puis j'ai vu marqué « WizGo est un service exploité par la société WizGo, société anonyme immatriculée au RCS de Versailles, patati patata ». Société anonyme, ça veut dire que le but de ce machin-là, c'est de faire des sous, du bénéfice pour les actionnaires. Et j'avais un petit peu du mal à comprendre comment ils arrivaient à dégager des bénéfices en faisant un service gratuit. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer. Et donc j'ai trouvé ça plus loin dans les conditions générales. Il y a un autre paragraphe où il est marqué « En outre, WizGo pourra transférer des informations à caractère non nominatif et socio-démographique telles que âge, sexe, catégorie socio-professionnelle à certains partenaires identifiés afin qu'ils puissent adapter leurs annonces. » Leurs annonces. C'est ça la pub, non? C'est-à-dire qu'en fait, les publicitaires, quand ils font passer de la pub à la télé, je parle pas sur Internet, hein, là, je parle à la télé, ils payent en fonction de l'audimat. Quand c'est intégré dans un match de foot, l'audimat est énorme et il paye cher. Et donc, il y a besoin de faire l'audimat. Et ça se fait par des sondages. Et les sondages, ça coûte cher. Il faut payer des gens pour qu'ils téléphonent, un échantillon représentatif.
Il y a des boîtiers d'audimat pour la télévision, mais...
Il y a...
Pour la télévision, c'est des boîtiers d'audimat. Donc, en fait, tu as des appareils chez un panel représentatif.
Oui, mais il faut avoir un panel représentatif.
Ça coûte cher quand même.
Alors que si les gens vont bien sagement indiquer tout seuls, de leur propre initiative, sur WizGo, quelles sont les émissions de télé qui les intéressent, parce que c'est celle-là qu'ils veulent enregistrer, l'audimat, il se fait tout seul.
Voilà, puis on a quelque chose de beaucoup plus ciblé que les millions de téléspectateurs qui regardent la télé. On ne sait même pas s'ils sont derrière, on ne sait pas s'ils ont choisi.
Absolument.
On ne sait pas combien ils sont derrière la télé, etc.
Mais quelque part, on a mis le doigt dans le système, là. On s'aperçoit, quand on a compris ça, qu'il n'y a pas que WizGo, hein. Et même, ça va plus loin que l'audimat.
Parce que je dirais même que les données sociodémographiques, âge, sexe, c'est de la rigolade par rapport à ce qui se fait chez...
Ça va plus loin que l'audimat, rien que par âge, sexe. Mmh. On est d'accord. Mais en plus, comme on sait qui, parce qu'il faut se faire un compte, évidemment, sur le site web de WizGo, on peut savoir, on peut faire des associations entre les différentes émissions que la personne a voulu enregistrer. Et on peut voir que il y a certains profils dans ces associations. C'est pas juste un pourcentage d'intérêt pour les émissions de prise indépendamment. On peut aussi les associer. Et donc ça permet de connaître les gens. Ça permet de cibler quels sont les centres d'intérêt qui se trouvent regroupés chez certaines personnes. Et donc clairement, il y a d'autres noms qui font ça beaucoup mieux et dont c'est la raison d'être, dont c'est le business plan. Pour vous, c'est quoi Google, un moteur de recherche? Comment ils sont financés, Google?
Ouais, c'est la pub avant tout. Ouais.
Pour vous, c'est quoi Facebook, un réseau social? Comment ils sont financés, Facebook? Qui paye pour pouvoir aller utiliser Facebook? Facebook, c'est une société anonyme, donc son but, c'est de faire des bénéfices pour les actionnaires. Et donc, son business plan, c'est de collecter des données socio-démographiques, comment ils avaient dit? Moi, ça me fait toujours rire, ce genre d'expression. Mais bon, collecter des données sur les gens pour mieux connaître les gens et ensuite vendre ces données. Alors évidemment, pas à caractère personnel. C'est-à-dire qu'on ne met pas le nom, on fait des statistiques et puis on vend les statistiques. Comme ça, c'est pas nominatif. Et donc, on peut mettre dans les conditions générales de vente qu'on respecte la vie privée. Mais n'empêche qu'on vend ça aux publicitaires et qu'ils s'en servent pour adapter leur pub, pour faire de la pub ciblée, ouais. Donc plus efficace.
À WizGo, je dirais même que c'est les gentils du truc, parce que dans Facebook, on a un réseau de surveillance bien plus étroit. Dans Google, on a une analyse...
Bien plus d'informations que juste les émissions de télé, ouais, qui intéressent, ça c'est sûr.
Et pour le coup, c'est nominatif, puisqu'ils ont une politique pour forcer les gens à mettre leur vrai nom, et que la pub, elle est affichée, ciblée et affichée à l'utilisateur. Google va, dans Gmail, analyser le contenu des mails, donc lire automatiquement les mails, analyser le contenu et proposer une pub qui va correspondre à ce qu'il y a dans le contenu des mails. Il y a cette idée, hein, qu'on entend.
Mais il y a deux étapes qui sont bien différentes. Il y a le fait fait que quand je vais sur Internet, je vois une pub qui s'affiche, qui est sélectionnée en fonction de mon profil. Mais il y a aussi que la pub qui s'affiche, elle est faite en fonction de mon profil. Et c'est deux étapes différentes. Il y en a une qui est chez l'annonceur, chez celui qui affiche. Et il y en a une qui est chez le publicitaire qui conçoit la pub. Et donc c'est de la pub plus efficace parce qu'elle est adressée au public idoine. Mais c'est aussi de la pub plus efficace parce qu'elle est adaptée au public à qui elle s'adresse. Adaptée au sens psychologique du terme. Alors moi, la pub, j'aime pas. En tant qu'écolo, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moteur de la consommation, moteur qui pousse les gens à acheter des choses inutiles, dont ils n'ont pas besoin, à les changer plus avant qu'ils soient foutus, à les jeter alors qu'ils marchent encore. C'est tout plein de choses négatives. Et puis, il y a aussi d'autres choses négatives au niveau social dans la pub, et non plus au niveau environnemental cette fois. C'est que si la pub se contentait d'inciter les gens à acheter les produits, ce qui est son rôle, ben, quelque part, elle serait moins pire. Je vois aussi dans la pub qu'elle fait passer des idées, elle influence les goûts, elle fait passer des modes, elle influence la psychologie des gens, oui.
Ouais, elle s'attaque non pas au côté rationnel en disant « mon produit est le meilleur », mais elle va essayer de travailler les émotions, les représentations.
Plus que ça, il y a une certaine image du corps de la femme, il y a des notions comme l'individualisme, comme l'esprit de compétition. Et je demande à ce qu'on me démontre que le fait de mettre tout le temps le même stéréotype en termes de corpulence des femmes sur les pubs de lessive ou de voitures, c'est ça qui fait vendre mieux les voitures. Le fait qu'il y ait une femme, oui. Mais le fait qu'il y ait un stéréotype sur le corps de la femme, ça va au-delà. Ça va au-delà de simplement vendre la voiture, ça, c'est une façon de formater les goûts d'une population. Et ça, formater dans le sens individualisme, esprit de compétition, ça ne me plaît pas non plus.
Alors, pour revenir à Internet et à la pub, il y a quand même plein de trucs sur Internet qui ne sont financés que par la pub et avec on a difficilement accès à autre chose, un moteur de recherche par exemple.
Ah, moi je ne sais pas me passer de Google. Hein.
Et voilà. Et même si on veut payer son moteur de recherche en disant je suis prêt à m'abonner et à verser des sous pour pas que ce soit les publicitaires qui le fassent à ma place.
Et bien concrètement, on s'aperçoit que le moteur de recherche par lequel on passe, il fait la requête Google à notre place et il nous sert les résultats. On est d'accord avec ça. Il y a Six, S-E-E-K-S, qui est en train de se monter, qui est un moteur de recherche libre, en peer-to-peer. Mais comme c'est en train de se monter, c'est pas encore au point. Donc actuellement, Six fait la recherche Google en notre place, avec l'objectif que plus tard, quand ça marchera, ce soit en peer-to-peer et donc arriver à se passer complètement de Google. Bon, concrètement, ça marche pas encore. Hein. Donc clairement, je sais pas me passer de Google. Par contre, je sais utiliser Google le moins possible. C'est-à-dire que je fais mes recherches dans le moteur de recherche de Google, mais mon mail, il est pas chez Gmail. Ça, on est bien d'accord. Je me passe totalement de Facebook, ainsi que de Twitter, parce que Twitter, il existe un équivalent libre qui s'appelle Identica. Puis ensuite, pour le mail, je suis chez mon fournisseur d'accès Internet. Pour le site web, on peut mentionner, alors là, on va rentrer dans les solutions qui existent. Moi, j'y suis pas, mais bon. Il y a le RIEN, R-H-I-E-N, ça veut dire Réseau d'hébergeurs indépendants et engagés. C'est des passionnés d'informatique qui se sont montés un serveur web chez eux parce que ça leur plaisait. Tant qu'à avoir un serveur web qui fonctionne, autant laisser des gens venir y mettre leur site web. Et donc, c'est gratuit et c'est fait par des passionnés. Et puis, il y a aussi des associations qui font de l'hébergement, donc web, mail et ce genre de choses. On peut citer L'Autrenet, on peut citer Ouvaton, on peut citer Globenet, Marsnet, enfin il y en a plein. Donc là aussi je vous invite à aller voir sur mon site web pour avoir plus de liens.
Et donc toi la solution que tu as retenue c'est quoi?
Alors concrètement moi je suis tout chez mon fournisseur d'accès à Internet. Donc pour mon mail, pour mes pages perso.
Je suppose que tu n'as pas choisi ton fournisseur d'accès Internet totalement par hasard.
Bah évidemment, parce qu'on a parlé de la pub, on a dit que Google il collecte des infos sur les gens. Mais quelque part, il y a quelqu'un qui sait tout ce qu'on fait sur Internet. C'est le fournisseur d'accès Internet.
Ouais, c'est la porte d'entrée.
Bah, tout passe par lui. Et donc, il est assez important d'avoir un fournisseur d'accès Internet dans lequel on a confiance en termes de vie privée et en termes de liberté individuelle. Donc, clairement, là aussi, des entreprises multinationales qui ont pour but de faire des bénéfices pour leurs actionnaires, quel niveau de confiance on peut leur faire? Alors qu'à côté, il existe un fournisseur d'accès Internet associatif qui s'appelle FDN, comme French Data Network. Et d'ailleurs, c'est en train de fourmiller là aussi en ce moment, parce que ça fait des petits.
Ouais, une de leurs politiques, ne c'est pas de grossir à l'infini, mais c'est effectivement de faire des émules et provoquer la création d'autres associations.
Et donc, on en est à une quinzaine 15 en France d'associations qui sont en train de se créer, dont je ne sais plus, 7 qui sont fonctionnelles. Tout ça regroupé en une fédération, FFDN, comme Fédération FDN. On retrouve les notions qui sont dont j'ai parlé déjà dans Enercoop, hein, qui sont un autre modèle économique. Je paye à l'association les sous que ça coûte à l'association de me faire ma connexion. On n'est pas un numéro parmi des millions d'autres. L'association est petite et donc on connaît les autres. Et donc on est entre copains. Il n'y a pas de hotline. Quand on a la connexion en panne, on appelle un autre membre et on se fait aider par d'autres membres. Donc voilà, c'est un autre monde, c'est clair.
Tout ça, ça doit coûter quand même cher, non? Parce que je suppose que tous ces trucs associatifs, ils ont du mal à être compétitifs par rapport à des grosses structures qui mutualisent.
Ouais. C'est plus cher. C'est pas beaucoup plus cher.
T'as fait une évaluation de la différence?
C'est une fois et demie. C'est-à-dire que j'en suis à 45 € par mois en comptant l'abonnement à Internet chez FDN et la ligne de téléphone chez France Télécom, parce que FDN ne fait pas le téléphone, donc il faut avoir les deux. Donc ça fait 45 € par mois, alors que si j'avais un forfait, ce serait un forfait à 30 € par mois. Je n'ai pas la télévision, et donc... Le triple play avec internet, téléphone, télévision ne m'intéresse pas plus que ça.
Et ben on va faire une petite pause et puis après on va parler des autres soucis auxquels on peut être confronté sur internet. He started to change. Every day I met a brand new person. The burn started coming to the surface in his mouth, on his tongue, his cheeks. At first, there were little lesions, and then they grew. It came off in layers, as white film. The color of his face. His body, blue. There wasn't any time to cry. I loved him. I had no idea how much. We'd just gotten married. He'd grab my hands and whirl me around and kiss me. Hamster, tu nous parles aujourd'hui de l'impact environnemental et social de l'informatique. Donc on a fait pour l'instant un tour d'horizon de toute la démarche que tu as eue, que tu as mis en partage sur Internet pour expliquer comment tu avais fait. Donc des choix de location pour le matériel, de fournisseurs d'électricité associatif et écolo, d'un fournisseur d'accès associatif également avec... une vraie confiance, etc. Tu parlais, par rapport à Internet, du problème de la publicité, qui est malheureusement, enfin on peut le minimiser, mais on ne peut pas l'éviter.
Oui.
Et il y a un deuxième gros point noir sur Internet, c'est celui de la surveillance.
Ah ben ça c'est très bien vu, c'est en cours. Ça a commencé par la Tunisie, c'est passé par l'Égypte, la Libye, et puis maintenant on a la Syrie. On voit très bien, sur ces exemples-là, l'enjeu de la surveillance. Surveillance plus que censure. C'est-à-dire qu'en Syrie, les services, enfin, le gouvernement en place, a très vite compris qu'il est beaucoup plus efficace de surveiller les dissidents. Et quand on a assez d'informations sur eux, on les arrête, eux et leurs copains, tout un groupe ensemble. C'est beaucoup plus efficace que d'essayer de les censurer, essayer de les empêcher de parler. Parce que sur Internet, ils trouvent toujours un moyen de parler, ils trouvent toujours un moyen de contourner le blocage. Donc il y a d'autres endroits hein, où la surveillance est très forte. On peut parler de la Chine, par exemple. On peut parler, je ne sais pas, la France, non?
Non, jamais chez nous, c'est pas possible.
Pourquoi?
Non, mais non, tu sais, chez nous, c'est le pays des droits de l'homme, tout ça, je veux dire.
Le système de surveillance intégrale, alors quand je dis surveillance intégrale, ça veut dire surveillance totale à l'échelle d'un pays. En Libye, le système qui avait été installé, c'est un système qui était capable de surveiller tout ce qui se passait en Libye. Rien n'y est échappé. Eh bien, c'est un système français.
Ah, mais tu es contre l'industrie française, je veux dire, voilà, Tu n'aimes pas les belles réalisations techniques?
Ben oui, je sais pas, un canon c'est une belle réalisation technique. Hein.
Et oui. Alors, et donc, chez nous, on a des lois qui autorisent un certain nombre de surveillance, notamment la loi de l'OPSI 2.
Oui.
On a eu DOPI dans une moindre mesure, mais il y a des trucs...
Mais plus que ouais. Chez nous, ça va plus loin que la surveillance. On a aussi des lois qui autorisent la censure.
Oui.
Et la censure, censure secrète sur, basée sur une liste, donc censure basée sur une liste secrète sur ordre du ministère de l'Intérieur, donc ministère de la Police. C'est ouais, ça ressemble à l'époque de la Terreur au temps de la Révolution, on va dire.
Il faut savoir qu'en Australie, ils avaient comme ça une liste de sites à censurer. Et suite à des pressions politiques, ils avaient publié en fait le contenu de cette liste.
Une fois, ça avait fuité. Une fois, ils ont publié.
Voilà, on s'est aperçu qu'il y avait une bonne part des sites qui étaient censurés sur la liste, qui étaient des sites qui contestaient cette censure.
Oui.
Donc, parce que c'est évidemment censé être une censure pour protéger les enfants des pédonazis, etc. Et en fait, on s'apercevait qu'une bonne part des sites interdits étaient des sites s'opposant au truc, donc, en gros, la censure interdisait la contestation de la censure.
Et dans la deuxième version, on a même trouvé des sites censurés parce qu'ils avaient un lien vers un site qui conteste la censure. Donc, des sites qui disent où se trouve la contestation étaient censurés aussi.
Voilà, donc tout ça en Australie. Mais bon, chez nous, c'est le pays des droits d'homme, hein, je le répète, donc ça ne peut pas arriver.
C'est un produit d'exportation, les droits de l'homme, non ?
Alors, je ne sais pas si ça se vend très bien, mais...
regardez les USA, ils nous l'ont acheté, hein.
Ouais. Voilà, la surveillance, la censure, tu dis qu'à la limite, c'est moins dangereux, parce qu'on sait qu'on se fait bloquer, mais on trouve des moyens de contourner plus ou moins.
Oui.
On sait que l'Égypte avait bloqué des trucs, la Libye aussi avait essayé de bloquer, et bon, ça n'a jamais tenu très longtemps, que c'est même presque... Enfin, en Égypte, ils avaient carrément coupé Internet sur l'Égypte.
Ça veut dire quoi, couper Internet? Ils avaient ordonné aux trois fournisseurs d'accès Internet... Mmh. ADSL, de couper aux trois principaux. Et puis, il y avait quelques petits fournisseurs d'accès par-ci, par-là, qui, eux, n'avaient pas coupé. Et puis, le téléphone marchait toujours. Et donc, on pouvait toujours se connecter en bas débit. Mmh. Et donc, la capacité à couper Internet, elle venait du fait que c'était centralisé dans trois fournisseurs principaux.
De l'intérêt de passer par de petits fournisseurs.
Absolument. Donc, la censure, c'est... Je ne connais pas de censure qui marche sur Internet. C'est plus ou moins compliqué à contourner, mais ça se contourne. Par contre, la surveillance, ça... C'est beaucoup plus difficile d'y échapper. Il y a un machin qui s'appelle Tor, T-O-R, comme le T, je ne sais plus ce qu'il veut dire. Mais O-R, c'est O-Oignon Routing, c'est-à-dire routage en pelure d'oignon, et ça permet d'être anonyme. C'est le seul système qui permet d'être, que je connaisse qui permet d'être vraiment anonyme sur Internet. C'est quelque chose qui m'inquiète parce que je n'ai pas de solution pour la surveillance.
Tor, c'est quand même un peu costaud, il faut être un utilisateur plutôt aguerri pour la...
C'est ça. Ouais. Oui.
Et je sais que des gens aussi des plombiers, ils ont réussi à identifier des paquets comme étant des paquets venant, transitant par le réseau Tor, mais pas réussi à remonter à la source, ni à lire le contenu du paquet.
Voilà, ça c'est l'avantage de Tor. C'est un truc assez solide pour le moment, jusqu'à ce que quelqu'un arrive à le craquer.
Voilà, mais alors du coup, est-ce que c'est pas un peu de la paranoïa sur ces histoires de surveillance? Parce qu'on a toujours cette idée de, oh, mais bon, si on n'a rien à se reprocher, tout ça.
Si on n'a rien à se reprocher maintenant, un gouvernement, ça peut changer. Hein. Je sais pas, regardez le STIC, par exemple, c'est un fichier de la police qui recense toutes les personnes qui ont affaire à la police, c'est-à-dire autant les condamnés que les victimes, mais aussi tous les suspects. La CNIL a rendu récemment un rapport qui indique que la maintenance de ce fichier est assez en dilettante, c'est que donc il y a 80% d'informations fausses ou erronées dans ce fichier. Et c'est un fichier qui contient un tiers de la population française.
Voilà, parce qu'en plus ça, il n'est pas mis à jour. C'est-à-dire que selon la loi, on est censé effacer les informations au bout d'un certain temps. La police ne le fait pas.
Et donc, un truc du genre se faire arrêter pour une infraction qu'on n'a pas commise parce qu'elle a été mise par erreur sur notre nom dans le fichier, c'est toujours possible.
Ça fait penser à Brésil.
C'est ça, ça fait penser à 1984, célèbre bouquin d'il y a longtemps, ça fait penser à Big Brother. Après, on peut évoquer d'autres problèmes qui sont un gouvernement qui devient plus moins tolérant avec les libertés individuelles, et puis la loi qui change, et puis des choses que l'on n'a pas à se reprocher maintenant, mais qui pourront être utilisées contre nous plus tard. Ça, c'est aller demander en Libye, aux Libyens, aux Tunisiens, aux Syriens, ce que c'est que la surveillance, ils sauront vous répondre.
Et il y a un autre outil de surveillance fabuleux qui est le téléphone portable.
Oui. Alors moi, pour raison de sensibilité aux ondes, je n'ai pas de téléphone portable. Donc c'est un sujet auquel je ne me suis pas intéressé.
Voilà. Mais on sait qu'à chaque fois que vous vous déplacez, votre téléphone portable se connecte à une antenne relais. Et donc, en gros, on sait que votre téléphone portable était connecté à telle antenne relais qui doit avoir quelques centaines de mètres, peut-être un petit peu plus de portée. Mm-hmm. Donc, on localise une personne tout au long de son trajet.
Avec les smartphones, on fait encore mieux que ça. Ceux qui sont sous Android, c'est un truc qui a été fait par Google.
Et sur des bases de logiciels libres.
Sur des bases de logiciels libres, mais fait par Google quand même. Et donc, il utilise justement les antennes, mais il utilise aussi le recensement des points Wi-Fi qui a été fait par Google. Et avec la position des points Wi-Fi aux alentours, des hotspots Wi-Fi, Google arrive à localiser encore plus précisément qu'avec les antennes de téléphone.
On a également des choses dans les conditions sur les smartphones, hein, des applications qui peuvent par exemple télécharger le carnet de contact, qu'ils le font d'ailleurs. Hein.
Absolument.
Ce qui veut dire que vous installez une application, elle peut, elle le fait, un certain nombre d'entre elles le font, télécharger votre carnet de contact. C'est un petit peu comme si on donnait votre numéro de téléphone et que je le refile à quelqu'un parce que je trouve sympa.
Mais on va plus loin que ça. Hein. Il y a deux étudiants du Massachusetts Institute of Technology qui avaient réussi à craquer les cartes SIM, le système de chiffrement des cartes SIM. Et quand ils l'ont craqué, ils se sont aperçus qu'il y avait des simplifications dans le système de chiffrement qui avaient été faites pour faciliter les écoutes. Donc là aussi, autant sur Internet, le contenu des mails, un système de surveillance arrive très bien à le lire, autant sur téléphone, un système de surveillance arrive très bien à écouter ce qu'on dit. Arrive aussi à nous enregistrer quand on a le téléphone dans la poche et qu'on n'est pas en train de téléphoner. Quelque chose dont on s'est aperçu aussi.
Alors, chose avec Internet qui est assez nouvelle finalement, c'est que jusqu'à maintenant, on s'est toujours méfié des États au niveau de la surveillance, la police, etc.
Oui.
Aujourd'hui, des boîtes comme Facebook ou Google ont plus d'informations sur leurs clients qu'aucun État totalitaire n'en a eu sur ces sujets.
Absolument. Et ça, c'est personnellement, j'avoue que Facebook et Google m'inquiètent beaucoup plus que le gouvernement syrien. Concrètement, le gouvernement syrien est passé à l'acte, a pris les armes et... Et ça donne l'actualité qu'on connaît. Facebook et Google ne l'ont pas encore fait, mais le jour où ils deviendront les diables et où ils décideront de filtrer et de censurer et de je ne sais trop quoi d'autre, ça va faire mal. Ça va faire très mal.
Mmh. Et même dans les médias, hein, puisqu'aujourd'hui, disons que Facebook et Google n'essayent pas de nous assassiner, mais il y a un effet qui, moi, me semble important, qui rejoint un petit peu ce que tu disais par rapport à la publicité, et qui est complètement lié à cette idée d'avoir des services hébergés, qui est la tutelle culturelle qu'ils imposent. C'est-à-dire qu'il faut savoir que sur Facebook, quand quelqu'un met un message sur Facebook, il y a des moteurs de recherche qui vont regarder les mots utilisés, etc. Parce qu'évidemment, il y a des sujets qui sont sensibles, il y a des conditions d'utilisation. Donc on dit, vous avez le droit de parler de ceci ou de cela, etc. Et il y a des gens qui sont payés pour aller relire les messages qui pose problème. C'est-à-dire qu'on va poster, s'exprimer, etc. Et il y a quelqu'un qui est par-dessus notre épaule, aller vérifier si c'est de bon goût ou pas.
Toi, tu dis tutelle, moi j'aurais dit infantilisation.
Bon, voilà. Et ce qui est complètement hallucinant, enfin, quand on y pense, on va s'exprimer. Bon, évidemment, Facebook s'est fermé. On sait qu'ils font les liens entre les différentes personnes. On sait qui connaît qui, même par le principe de l'invitation.
Absolument.
On sait qui connaît qui, mais y compris, c'est ce qu'on appelle les profils fantômes sur les gens qui ne sont pas inscrits sur Facebook.
Absolument.
Donc à chaque fois que quelqu'un gentiment vous envoie une invitation pour un réseau social, il y en a d'autres. Moi, Facebook, on m'en envoie pas beaucoup. Mais LinkedIn, le truc professionnel, j'en reçois des tonnes.
Moi aussi.
Ce qui fait que je suis relié à des tas de gens. Bon, heureusement, ce sont rarement les gens que je fréquente vraiment qui m'envoient ça. Mais on a comme ça des tas de liens sur ce qu'on aime, ce qu'on fait, etc. Facebook, il y a cette idée de je clique sur j'aime le bouton j'aime. Tout ça est enregistré, donc on sait quels sont les goûts, les intérêts des gens, et on peut relier tout ça. Et donc on a une image extrêmement précise et très inquiétante.
Mais même plus que ça, il y a des sites web qui en rajoutent un petit carré dans lequel il y a des photos de gens qui sont sur Facebook. Et dessous, il y a marqué ces gens-là aiment ce site web. Et on peut cliquer pour dire que nous aussi, on aime. Rien que le fait que ce machin-là, avec les quelques photos, s'affiche, ce machin-là, il vient de Facebook. Et donc, rien que le fait qu'il s'affiche, ça permet à Facebook de savoir qu'on a consulté telle page web, même si on n'est pas inscrit sur Facebook.
Alors, sur Firefox, il y a une option de navigation sans laisser de traces. Là. Est-ce que ça joue là-dessus ou est-ce que c'est uniquement
non.
sur la machine ?
Non, c'est uniquement sur la machine.
Ouais.
Il y a une option spéciale pour enlever, c'est un plugin spécial pour éviter de charger ce carré Facebook avec les photos, je ne sais plus comment elle s'appelle.
Donc cette histoire de surveillance, c'est plutôt angoissant, enfin,
oui.
Ça l'est.
Oui.
Toi, tu ne vois pas de solution aujourd'hui face à ça ?
Non.
Et même ton provider, ton fournisseur d'accès associatif, tu te fournit juste un accès Internet, donc tu restes soumis...
Au-delà de l'accès voilà. Internet, il n'a plus aucune influence. Hein,
voilà, j'irais même que, à partir du moment où tu es chez FDN, par rapport à une éventuelle surveillance d'État, etc., tu es étiqueté comme un activiste.
Absolument.
Voilà. Donc c'est même se rajouter une étiquette sur la tête.
C'est ça.
Donc est-ce qu'on reste sur une conclusion complètement négative ?
Certainement pas.
Ouais. Ok, on va se faire un petit morceau, une petite pause musicale pour se remettre de nos émotions. Et tu vas nous raconter le côté plus lumineux des choses,
oui.
La façon dont tu vois tout ça.
It was a short one paragraph item in the morning edition. A friend rang me up and read it to me. Nothing special. Something a rookie reporter fresh out of college might have written for practice. The date, a street corner, a person driving a truck, a pedestrian, a casualty, an investigation of possible negligence. Where's the funeral? I asked. You got me, he said. Did she even have family? Of course she had a family. I called the police department to track down her family's address and telephone number.
Track her down in the springtime. In the springtime. Track her down. Track her down in the springtime. In the springtime. Track her down.
May have been the reason why the funeral was so somber. Only family present, nearly everyone older. It was presided over by her older brother, barely 30, or maybe it was her brother-in-law. Her father, a shortish man in his mid-50s, wore a black armband of mourning. He stood by the entrance and scarcely moved. Reminded me of a street washed clean after a downpour. On leaving, I lowered my head in silence, and he lowered his head in return without a word. I met her in autumn 9 years ago, when I was 20 and she was 17. There was a small coffee shop near the university where I hung out with friends. It wasn't much of anything, but it offered certain constants, hard rock and bad coffee.
Donc Hamster, tu es revenu nous parler d'un sujet là qu'on évoque depuis une heure, qui est impact environnemental et sociaux de l'informatique. Donc on a vu toute ta démarche centrée sur l'écologie, etc. On a bien vu le côté environnemental. Tu nous as parlé notamment d'un fléau sur lequel tu n'as pas de solution absolue, mais en tout cas quelques recettes, qui est celui de la publicité. On comprend bien le lien entre écologie et publicité, le problème que ça peut poser.
Et société aussi.
Et société également. Tu as évoqué un autre problème beaucoup plus angoissant et difficile à traiter, qui est celui de la surveillance, et là pour lequel on n'a pas de solution parfaite. Et donc là, on est plus dans la dimension sociale de ton sujet. Mais tu nous as promis un avenir un peu plus, un horizon un petit peu plus radieux. radieux. De quoi s'agit-il ?
Qui ne voit pas les effets bénéfiques de l'informatique et d'Internet ?
Sans doute quelqu'un.
Mais... ils sont tellement gros qu'on ne pense même pas les dire, tellement ils sont évidents, non ? Je sais pas, moi, avant d'avoir un ordinateur, il m'arrivait d'écrire des lettres avec un stylo sur du papier en bois d'arbre. Alors, si on fait des statistiques, c'était combien de lettres par an ? 3, 4 ? Ouais, allez, 3, 4 lettres par an. Plus du téléphone. Là, si vous voulez un peu que je regarde combien j'ai envoyé de mails le mois dernier, je dis pas reçu, je dis envoyé. Mmh. Des mails que j'ai tapés avec mes doigts sur le clavier de mon ordi. Hein ? Ça passe le millier. Donc, c'est clairement un outil efficace pour travailler et pour communiquer. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Et puis ensuite, y a des philosophes qui vont plus loin dans le raisonnement. Et donc, je peux citer Michel Serres, Serge Souzeau-Platoff et Benjamin Bayard.
Tu mets Benjamin Bayard comme philosophe ?
Oui, ça ne me dérange pas.
Ok.
Quand on voit les raisonnements qu'il déroule, ça touche tout à fait à la philosophie.
Alors, Benjamin Bayard, pour information, donc, c'est le président de
FDN, mon fournisseur d'accès Internet.
Donc, qui est par ailleurs...
ingénieur informaticien.
Voilà, et militant pour la liberté des réseaux en général, enfin d'Internet en particulier,
oui.
Et qui fait d'excellentes conférences, est un très bon orateur.
Et donc, les conférences des trois conférenciers... que je viens de citer, sont les liens vers les vidéos de ces conférences sont sur mon site web, à la page d'Ilien. Donc la théorie développée, très bien détaillée par Michel Serres, c'est qu'il y a une coévolution entre l'homme et l'outil. L'homme façonne l'outil, mais l'outil modifie l'homme. Et il y a une autre philosophie qui analyse qu'est-ce que c'est qu'une société, que ce soit des hommes, que ce soit des fourmis ou des abeilles ou des singes. Qu'est-ce qui fait la façon dont la société fonctionne ? Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la façon dont l'information circule entre les individus. Et que si on change la façon dont l'information circule, ça change le fonctionnement de la société. Et quelque part, je suis un peu d'accord avec ce point de vue.
Ouais, c'est une idée qui circule depuis longtemps. On avait en sciences de l'information et de la communication McLuhan qui a... sorti ça il y a un bon moment, et plein d'autres éléments. Effectivement, ça semble quand même difficile de nier ça. Mais l'évolution, elle peut se faire dans le négatif également.
Oui, mais on vient d'en parler, des points négatifs.
Certes.
Alors, quels sont les différents stades d'évolution de notre société au cours de l'histoire, et comparons ces stades avec l'évolution des moyens de communication. À la préhistoire, on appelait ça le stade oral, où pour communiquer, il fallait se parler, donc être à portée de voix et... le seul moyen de stocker de l'information, c'était sa mémoire. Est arrivée l'écriture. Et donc, ça permettait de stocker de l'information et de se communiquer à distance, à travers un messager qui porte le parchemin.
La tablette.
La tablette. La pierre de Rosetta. Ça a fait un changement dans le fonctionnement des sociétés. On a vu apparaître la notion d'État, la notion de justice. Le droit est devenu stable parce qu'il était écrit. Le commerce s'est développé parce qu'on pouvait fixer un prix... et ensuite, le moment venu, payer le prix qui était fixé. Donc ça, on pouvait compter les moutons du troupeau, des choses comme ça. Les changements de société ont été tellement gros que les historiens, ils ont dit ça, apparition de l'écriture, c'est ce qu'on va appeler c'est l'élément dont on va se servir pour placer la limite entre préhistoire et histoire. Donc clairement, c'est un changement de société majeur. On a eu donc un système où on avait une communication au stade oral d'une personne à tout un groupe, ça c'était possible au stade oral, mais par contre le groupe pouvait pas être gros. Et puis quand on est passé au stade écrit, c'est-à-dire tablette gravée au burin ou parchemin écrit à la main, on a eu une communication qui était beaucoup plus d'une personne à une personne. D'ailleurs, il fallait en plus que les personnes en question savent lire et écrire.
Alors, même support peut être lu par plusieurs personnes, mais...
Oui, un parchemin écrit à la main unique, il n'est pas lu par grand monde. Hein. Même s'il circule, il n'est pas lu par la foule.
Ah, d'autant plus que chez nous, pendant longtemps, il y avait un monopole sur la compétence d'écriture, lecture, etc. Enfin, je veux dire, on avait des moines qui enfermaient les livres, les recopiaient patiemment, etc. Mais
c'est ça.
Il ne fallait pas que ça se diffuse de trop non plus. Quoi.
Et puis en Égypte, il y avait les scribes. Bon. Évolution suivante, arrive l'imprimerie. À qui j'ai besoin de rappeler que l'imprimerie a permis la diffusion de la connaissance, et par-delà, la Renaissance, le siècle des Lumières. Apparition, non, pas apparition, développement de la démocratie, qui avait été inventée par les Grecs dans l'Antiquité, mais qui était restée assez confidentielle, j'ai envie de dire. Crise de religion, parce que tout homme est pape une Bible à la main. Et donc, il y a des gens qui sont mis à lire la Bible, ce qu'ils ont pu faire parce qu'elle était imprimée, donc pas cher. Avant, les gens n'avaient pas les sous d'acheter la Bible.
En plus, ça, l'Église catholique interdisait les lecteurs de la Bible à ses ouailles.
Voilà. Et donc, apparition du protestantisme, Évidemment, changement dans tout ce qui est éducation, enfin bref, changement de société majeur, là aussi. En même temps, évolution de la société qui permet d'arriver à un niveau de technicité pour faire l'outil, et influence de l'outil sur le fonctionnement de la société, de par la diffusion de la connaissance, etc. Et on observe une coévolution du moyen de communication et du fonctionnement de la société. Et alors là, on est quand même dans un fonctionnement radicalement différent et qui a perduré jusqu'aux années 90, 1990, qui est un fonctionnement de un à tous, à sens unique.
On appelle les masses médias.
Les masses médias.
Et en fait, par rapport à tout ce que tu décris, et quand on parlait de la maîtrise de l'écrit par les moines copistes, etc., c'est qu'il y a toujours un enjeu de pouvoir et sur le contrôle de la communication.
Oui.
Et ce qui prouve bien qu'elle est super importante.
C'est absolument.
Que quand on veut dominer socialement, on doit maîtriser et dominer les systèmes de communication.
Alors, sur le modèle du mass-média, communication de un à tous, moi, ce que je vois, c'est le monopole de la parole. Et donc, l'imprimerie a permis au peuple de lire, mais que de lire.
Donc, c'est déjà en soi un mass-média parce que tout le monde ne peut pas imprimer son bouquin.
C'est ça.
Ça demande quand même une infrastructure importante et on a des lois qui sont mises par-dessus.
Absolument.
Pour limiter, avoir des responsabilités, etc., et donc contrôler l'impression.
Dans ses conférences, Benjamin Bayard s'amuse à faire une petite expérience. Il demande combien de gens dans la salle ont déjà vu un de leurs écrits publié dans la presse. Journaux, télé, choses comme ça. Et là, il y a quelques mains qui se lèvent dans la salle. Et après, il demande combien de personnes ont déjà vu un de leurs écrits publié sur Internet. Site web, blog, commentaires dans les forums, etc. Toutes les mains se lèvent. Donc clairement, Internet, c'est le changement suivant. L'imprimerie a permis au peuple de lire, Internet lui permet d'écrire. Il y a diffusion de la connaissance pour l'imprimerie et il y a expression pour Internet. Et donc c'est le début, c'est en train d'arriver, on voit déjà tous les signes, on voit changement majeur dans tout ce qui est éducation, on voit crise de religion, on voit Michel Serres déroule ça beaucoup mieux que moi, mais tous les signes y sont. Et on est en train de vivre le début d'un changement de société du même ordre de grandeur que la Renaissance. Et alors ensuite, quand on va analyser vers quelle société ça nous mène, le mass-média, la télé en est le plus bel exemple, ça nous a mené vers une société basée sur la propagande. Que ce soit la pub, que ce soit Staline, c'est toujours de la propagande, c'est-à-dire diffusion des idées à sens unique et lavage de cerveau. Je vois l'inverse dans Internet. Je vois beaucoup plus la pluralité d'expression, d'abord. Quand on a un sujet sur Internet, on trouve très facilement le contre-argument qu'on ne trouvait pas à la télé, je suis pas d'accord. Et le fait que les gens ont la possibilité de s'exprimer, évidemment, ils l'utilisent. Et donc, on peut analyser la progression de l'internaute. Quelqu'un qui n'avait pas Internet et puis qui s'abonne chez un fournisseur d'accès, les premières choses qu'il fait, c'est acheter ses billets de train. C'est aller lire les articles du journal qu'il avait l'habitude de lire sous forme papier. Et puis, il voit qu'il y a des commentaires en dessous, il se met à laisser des commentaires pour réagir à l'article qu'il vient de lire. Et puis, au bout d'un moment, il lit un peu les commentaires que les autres ont laissés. Et puis, ça commence à devenir du débat. Et puis après, il y a des sujets qui l'intéressent et il trouve des forums où il y a des gens passionnés par le même sujet que lui, et il va discuter par forum interposé, et ça devient de la vraie discussion en ce moment-là. Et c'est de la discussion publique, parce que quand on poste un message sur un forum, tous les autres le lisent, et tous les autres peuvent répondre. C'est vraiment à double sens. Et donc ça apprend aux gens à discuter, à argumenter en public, à reconnaître qu'ils ont tort quand c'est le cas. Et donc ça fait que quand un homme politique va aller serrer des mains au marché quand il est en période de campagne électorale, il se retrouve face à des gens qui savent lui répondre. Et ça lui fait très bizarre. Et ça, c'est un phénomène très nouveau. Moi, je trouve que c'est plutôt dans le bon sens.
Voilà. Et en tout cas, les points que tu évoquais, c'était bien de le faire, montrent que face à ça, il y a une réaction qui est en cours. On a eu 10 ans d'émergence d'Internet par surprise. Les figures de la domination n'ont pas trop compris ce qui se passait. Et là, on est en train d'avoir des tentatives de réajustement. Ce qui montre tout l'intérêt d'aller militer chez les associations, de se lancer dans le libre et d'aller chez...
On peut citer FDN, on peut citer la Quadrature du Net, on peut citer l'April, APRIL. Qui on peut citer d'autres sur ce sujet-là? On a déjà fait un tour.
On a Framasoft, même si c'est moins militant, c'est plus pratique.
C'est plus le côté pratique, ça.
Mais sans se lancer nécessairement dans des grandes causes, même si c'est important, le simple fait de partager, aider les gens autour de soi à passer au libre, être indépendant, à trouver des solutions.
Et puis l'utiliser soi-même. Et puis éviter Facebook et éviter de mettre ses photos sur Picasa Web et ses vidéos de vacances sur YouTube. On peut le résumer d'une façon très simple. La façon dont on fait Internet aujourd'hui, c'est la façon dont on prépare la société de demain. Est-ce que la société de demain qu'on veut, c'est tout le monde chez Facebook?
Très bien. peux peut-être nous rappeler l'adresse de ton site. Tu as en gros produit un petit document qui explique toute ta démarche.
Qui est sur mon site.
Et qui est sur ton site.
Prêt à imprimer.
Voilà, donc redonne-nous l'adresse.
www.suna.fdn.fr/informatique.
Voilà, donc on retrouvera tous tes trucs avec des choses extrêmement pratiques, parce que là, on a fini sur des questions de grands principes et d'engagement militant, mais tout ça, on le rappelle, c'est parti de comment acheter un ordinateur en restant en colo.
C'est ça, voilà. À la base.
Et tout ça, c'est également mis là-dedans. Moi, c'est une démarche, je suis loin d'être aussi écolo que toi, mais je me suis récemment équipé d'un portable que j'ai acheté d'occasion et que je fais tourner avec du GNU Linux, un PC qui a 5 ans, et ça marche très très bien, et aussi rapidement qu'un PC plus moderne avec un système beaucoup plus lourdingue. On retrouvera également sur ton site tous les liens que tu as pu citer,
oui,
notamment FDN, etc. Donc on vous invite à aller découvrir tout ça, aller tâter le terrain, tester, lancez-vous. Pas complètement non plus, il ne faut pas se dégoûter et se faire du mal.
Vous lancez pas seul.
Voilà.
Rejoignez des associations près de chez vous, ayez des copains. Typiquement, installez Linux, soit vous avez la fibre informatique, soit vous le faites faire par quelqu'un qui s'y connaît.
Hamster, merci beaucoup.
Mais merci à toi.
Et à une prochaine peut-être.
Oui.